Chapitre 8. Paris. Andrea vivait dans le quartier des Ternes, où son vieil immeuble, comme tous ceux de sa rue, attendait un ravalement de façade de la part des implacables rénovateurs de la ville. Derrière l'entrée sombre, une des bandes biofluorescentes de Fuji électrique brillait au-dessus d'un mur délabré de petits clapiers en bois, dont certains aux portes encore intactes. Marly savait que les facteurs passaient autrefois tous les jours déposer du courrier dans leur fente. Une idée non dénuée d'un certain romantisme, même si les boîtes à lettres, avec leurs cartes de visite jaunies qui annonçaient les métiers de locataires depuis longtemps disparus, l'avaient toujours déprimée. Chaque fil des méandres de câbles et de fibres optiques accrochés aux cloisons du couloir représentait un cauchemar en puissance pour un infortuné réparateur. À l'autre bout, derrière une porte ouverte aux panneaux de verre texturés et sales, se trouvait une cour abandonnée aux pavés scintillants d'humidité. Lorsque Marly entra dans le bâtiment, le concierge était assis dans la cour sur une boîte de plastique blanc vidée de ses bouteilles d'Évian. Il huilait patiemment chaque maillon d'une vieille chaîne de vélo noir. Il leva les yeux quand elle prit la première volée de marche, mais ne manifesta pas d'autre intérêt. L'escalier était en marbre, émoussé et arrondi par des générations de locataires. L'appartement d'Andrea se trouvait au troisième étage. Deux pièces cuisine et salle de bain. Marly s'y était installée quand elle avait fermé sa galerie pour la dernière fois et qu'il était devenu impossible de dormir dans la chambre improvisée qu'elle partageait avec Alain, la petite pièce derrière la salle d'exposition. L'immeuble menaçait désormais de raviver sa dépression que seuls ses nouveaux vêtements et cliquetis secs de ses talons sur le marbre maintenaient à l'écart. Elle portait un manteau en cuir trop grand, un peu plus clair que son sac à main, une jupe en laine et un chemisier en soie de lycétane de Paris. Elle s'était fait coiffer le matin même sur le faubourg Saint-Honoré par une birmane au stylo laser ouest-allemand. Une coupe onéreuse et subtile, mais pas trop classique. Elle appuya sur la plaque ronde insérée au centre de la porte d'Andrea, l'entendit biper une fois doucement, tandis que l'appareil lisait les spirales et les stries au bout de ses doigts. « C'est moi, Andrea », dit-elle dans le minuscule micro. Des cliquetis et des bruits sourds résonnèrent lorsque son ami ouvrit la porte. Andrea se tenait là, dégoulinante dans son vieux peignoir de bain. Elle observa le nouveau look de Marly, puis sourit. « Tu as réussi ton entretien d'embauche ou tu as braqué une banque ?» Marly entra, embrassa la joue humide de son ami. « Un peu des deux, j'ai l'impression », répondit-elle avant d'éclater de rire. « Du café ?» dit Andrea. « Fais-nous du café, avec de la crème. »« Je dois me rincer la tête, toi t'es super bien coiffée. » Elle partit dans la salle de bain et Marly entendit de l'eau couler sur de la porcelaine. « Je t'ai apporté un cadeau !» lança Marly, mais Andrea était trop loin pour saisir. Elle alla dans la cuisine, remplit la bouilloire, alluma la cuisinière avec un allume-gaz à l'ancienne et chercha du café dans les placards débordants. « Oui, » dit Andrea, « je comprends. » Elle regardait l'hologramme de la boîte que Marly avait découvert dans la reconstruction du parc de Gaudi par Virec. « C'est bien ton genre de truc. » Elle appuya sur un bouton et l'illusion du brown s'éteignit. Derrière l'unique fenêtre de la pièce, le ciel était constellé de quelques minces volutes de cirrus. C'est trop sombre pour moi, trop sérieux, comme les trucs que tu exposais dans ta galerie. Mais ça signifie que Herr Virec a bien choisi. Tu vas résoudre ce mystère pour lui. Si j'étais toi, vu les défraiements, je prendrais mon temps. Andrea avait revêtu le cadeau de Marly, une chemise d'homme onéreuse aux détails exquis et en flanelle flamande grise. Elle adorait ce genre de vêtements et elle paraissait ravie de la porter. Elle mettait en valeur ses cheveux pâles et était presque de la couleur de ses yeux. Il est assez affreux, Virec, en fait. Marly hésita. Rien d'étonnant, dit Andrea avant de boire une gorgée de café. Tu penses vraiment que les gens aussi riches sont des types normaux, sympas? À un moment, j'ai eu l'impression qu'ils n'étaient pas vraiment humains. Une sensation très forte. Il ne l'est pas. Marly, tu parlais à une projection, un effet spécial. Mais quand même, elle fit un geste d'impuissance qui l'agaça aussitôt. Enfin, il est super riche et il te paie très bien pour une tâche qui te correspond tout à fait. Andrea sourit et réajusta une jolie manchette noire. Ce n'est pas comme si tu avais beaucoup d'autres options, si? Je sais. Et c'est ça qui m'inquiète, je crois. Bon, dit Andrea, je pensais ne pas avoir à te le dire tout de suite, mais il y a autre chose qui risque de t'inquiéter. Si, on peut parler d'inquiétude. Oui, j'ai envisagé de ne pas t'en parler, mais je suis sûr qu'il va finir par te contacter. Il sent l'argent, j'imagine. Marley posa sa tasse vide avec précaution sur la petite table encombrée en rotin. Il est bon pour ça, admit Andrea. Quand ? Hier. Ça a commencé une heure après ton entretien avec Virek, je crois. Il m'a appelé au boulot. Et il a laissé un message ici au concierge. Si j'enlevais le programme de filtrage, elle désigna le téléphone, il sonnerait dans la demi-heure. Elle se rappela les yeux du concierge, le cliquetis de la chaîne de vélo. Il a dit qu'il voulait parler, expliqua Andrea. Seulement parler. Tu veux lui parler, toi, Marley ? Non, dit-elle d'une voix de petite fille aiguë et ridicule. Puis, il a laissé un numéro ? Andrea poussa un soupir, secoua la tête et répondit : Oui, bien sûr.